Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Mon invité aujourd'hui est Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques. Il vient nous présenter son dictionnaire amoureux de Napoléon, publié chez Plon. D'abeille à Jung allait enterrer sa fille, notons d'ailleurs qu'il ne se termine pas avec Waterloo. Ce dictionnaire présente un regard distancié sur la période napoléonienne, à laquelle le professeur Tullard a consacré une partie significative de son œuvre. Au fil de ce dictionnaire, on découvre ainsi pourquoi Jean Tullard est attiré par Napoléon. Et ne serait-ce pas avant tout parce qu'il lui permet d'aborder ses propres passions, à commencer par le cinéma, la littérature, mais aussi la musique ou encore la gastronomie. C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Monsieur Tullard, bonjour.
Bonjour.
Vous voici donc à nouveau à l'origine d'un dictionnaire, qui plus est sur Napoléon. Mais cette fois-ci, on a l'impression qu'il s'agit d'un ouvrage un peu plus personnel.
Un peu plus personnel, oui. Dans la mesure où d'abord je suis très embarrassé par le titre. Dictionnaire amoureux de Napoléon, alors que pendant des années, dans mes enseignements à Sorbonne, que vous avez d'ailleurs suivi, j'ai toujours dit qu'il ne fallait jamais manifester, lorsqu'on est historien, la moindre passion, amoureuse ou haineuse, bien entendu. Les sentiments doivent être étrangers au thème qu'aborde l'historien. Alors pourquoi ai-je écrit un dictionnaire amoureux? D'abord, c'est le titre de la collection, et comme vous l'avez très bien dit, je ne suis pas amoureux de Napoléon, qui aurait cette autre cuidance. Je ne suis pas amoureux de Napoléon, je suis amoureux du mythe, c'est-à-dire du personnage, héros de plus de 300 films, héros de romans policiers, c'est le personnage historique qui a failli être le plus assassiné dans les romans policiers, héros de la bande dessinée, où on le trouve énormément, héros également, comme vous l'avez dit, de la gastronomie. Bref, Napoléon résume à travers son personnage toutes les passions que j'ai éprouvées. J'ai même eu l'honneur de présenter sur la scène de l'opéra le Napoléon d'Abel Gance à la demande d'un de nos éminents confrères de cette maison, Hubert Gall.
Donc un dictionnaire amoureux, c'est une forme de toute façon un peu particulière qui permet de souligner certains aspects qu'on aime bien et d'éviter peut-être d'autres aspects qu'on aime moins.
Oui, c'est ça. Une définition dictionnaire amoureux, je ne sais pas si M. Jean-Claude Simon l'approuverait. En tout cas, elle est très habile et je suis certain que vous écrirez bientôt un dictionnaire amoureux, je ne sais de qui. En tout cas, le dictionnaire amoureux a cet avantage qu'il permet de défendre un personnage. Car au-delà du mythe, j'ai voulu remettre d'aplomb un certain nombre d'idées préconçues. Je ne vous en prends qu'une. Puisque nous entrons dans l'année 1912, anniversaire de la campagne de Russie, c'est la Bérézina. On dit une Bérézina. Une Bérézina, c'est-à-dire un désastre. Or, pas du tout. La bataille de la Bérézina, comme je le montre dans le dictionnaire amoureux, est une bataille qui est finalement une victoire de Napoléon. Les Russes, commandés par un amiral d'ailleurs, qui sera, j'allais commettre un superbe anachronisme, limogé par le tsar, les Russes ont tenté d'encercler Napoléon en le rejetant sur la Bérézina, dont les eaux étaient glacées et qu'il ne pouvait pas, en principe, franchir. Or, grâce à l'admirable courage des pontonniers de Napoléon et du général Eblé, on a construit à temps des ponts qui ont permis à la majeure partie de l'armée de Napoléon d'échapper à cet encerclement pendant que Victor, le maréchal Victor, au nom merveilleux, c'est la victoire, tenait en respect les forces russes. Bref, la Bérézina n'est pas du tout un désastre, mais au contraire une victoire. Et je pourrais continuer en vous rappelant, je l'ai fait à cette tribune, les pieds nickelés. On dit des gens qui ratent un casse, c'était une bande de pieds nickelés. Avec une nuance péjorative, les pieds nickelés sont des escrocs de génie, du moins ceux qui sont apparus entre 1908 et 1934, ceux de Louis Forton. On dit un zozo, mais Zozo était un singe malicieux apparu dans la bande dessinée dans les années 30. Bref, il y a comme ça des politiquement ou conformément corrects qui sont absurdes.
Autre chose que vous traitez sont le nombre de morts de la Grande Armée.
Oui, alors on dit 1 million de morts. Mais on ne peut pas véritablement donner le chiffre exact. Parce que il faut bien comprendre que dans une bataille napoléonienne, il y a les morts, il y a les blessés qu'on ampute et qui vont peut-être mourir après, il y a les déserteurs, il y a ceux qui n'étaient pas sur les contrôles de troupes. Alors, lorsque nous pouvons véritablement vérifier, nous le pouvons à la bataille d'Austerlitz, grâce à mon disciple Bernard Quintin, qui a recensé les morts de cette bataille avec les contrôles de troupes. Eh bien, nous constatons qu'il y a eu 1200 tués à la bataille d'Austerlitz, qui est une des grandes batailles de Napoléon. Bien entendu, il y en a eu plus à Eylau. Quant à la campagne de Russie, là, les contrôles de troupes ayant été perdus, nous ne pouvons pas vérifier. Nous savons simplement que c'est une armée, pas tout à fait quand même, de 500 000 hommes qui franchit le Niémen et qui n'en repasse 25 000. Mais dans l'intervalle, il y en a qui ont déserté et qui en sont revenus. Il y en a qui ont été faits prisonniers et dont on n'a plus de nouvelles. Il y en a qui sont parfaitement intégrés dans la société russe, car nous avons des mémoires d'anciens soldats de Napoléon qui nous montrent qu'ils ont été très bien accueillis par la société russe et qu'ils sont restés en Russie. Il y en a d'autres qui ont disparu dans des conditions très pénibles parce qu'il y a eu, comme en Espagne, les massacres de soldats isolés. Bref, je ne peux pas avancer un mort, mais on ne peut pas dire 500 000 morts.
Venons-en, si vous le voulez bien, aux aspects quand même qui vous séduisent chez Napoléon. Entre autres, on a l'impression que tout ce qui se rapporte à l'image est un des aspects qui vous fascine. Et le mot « image » fait partie des entrées de votre dictionnaire, d'ailleurs.
Napoléon est un personnage moderne parce qu'il s'est conçu sous la forme de l'image. L'image, c'est-à-dire le petit chapeau, qui est en principe absurde, la mèche, la redingote grise, la main dans le gilet. Pourquoi a-t-il conçu cette silhouette qui permet immédiatement d'identifier n'importe quelle personne adoptant cette tenue ou ces attitudes? C'est parce que sur le champ de bataille, il était reconnu sur son cheval, il se déplaçait à cheval sur le champ de bataille, en berline, en revanche dans les longs déplacements. Donc, on reconnaissait Napoléon et le soldat disait « Ah, si Napoléon est là, c'est que la victoire est certaine ». Et c'est ce qui fait sa modernité, en sorte que n'importe quel acteur, même Christian Clavier, a pu interpréter le personnage de Napoléon. Et je suis certain, je vous prends le pari, que Jean Dujardin sera très prochainement un Napoléon.
À voir, à voir. Mais avec l'image, ça renvoie justement à la légende et au mythe de Napoléon. J'étais étonné de ne pas trouver ces deux entrées dans votre dictionnaire.
Alors, le mythe de Napoléon, je l'avais traité par ailleurs. Et effectivement, la légende napoléonienne, tout cela a été forgé par Napoléon. Quels sont les personnages historiques que nous retenons le plus dans notre histoire? C'est Richelieu. Pourquoi Richelieu? À cause de la Gazette de Théophrase Renaudot et à cause du fameux portrait de Philippe de Champaigne, que tout le monde identifie. L'autre personnage, c'est Louis XIV. Pourquoi Louis XIV? Parce que c'est le roi soleil, parce que c'est Versailles. Si vous voulez rester en histoire, il faut se créer un personnage, avoir un certain nombre de réalisations. Et donc, pour Napoléon, c'est non seulement la silhouette, mais c'est la colonne Vendôme, c'est l'arc du Carrousel, et ce sont des noms qui claquent, Austerlitz, Wagram, etc.
Vous êtes d'ailleurs venu à l'histoire et à Napoléon par l'histoire de la police et l'histoire de Paris, deux thèmes présents dans votre dictionnaire. Et au sujet de Paris, on associe souvent la transformation de Paris au Second Empire et à Haussmann. Or, vous insistez là aussi sur l'importance de Napoléon Ier.
Oui, effectivement, le Second Empire a créé le Paris que nous connaissons. Mais les grands monuments parisiens, l'Arc du Carrousel, la colonne Vendôme, je dirais les débuts de l'Arc de Triomphe, de l'Étoile, sont des initiatives napoléoniennes. Et je dis toujours, puisque actuellement, la tendance dans les programmes d'histoire, c'est d'éliminer Napoléon. Napoléon n'apparaît plus qu'en quatrième et encore dans une matière option. Que se passera-t-il si cette réforme subsiste? C'est qu'à un moment donné, on se retrouvera comme les fellahs à l'ombre des pyramides ou à l'ombre des monuments de Thèbes, qui ne savaient pas du tout ce qui s'y représentait, qui ne pouvaient pas lire les hiéroglyphes, puisque c'était des coptes ou des musulmans, bref, qui ne savaient plus leur passé. Et que restera-t-il à ce moment-là? Des noms. Les seuls, les chauffeurs de taxi parisiens pourront savoir ce qu'est Tilsit, Wagram, Murat, Talleyrand, parce que ce sont des noms des rues de Paris. Mais cela ne représentera plus rien. Or, et incontestablement, Paris a été façonné par Napoléon, après, disons-le, avoir été un peu détruit par la Révolution.
Alors, dans votre dictionnaire, vous vous présentez aussi beaucoup de portraits, bien sûr. On retrouve les personnages phares de l'Empire, Talleyrand, Fouché, la famille impériale, des maréchaux, des généraux. Mais il y a aussi certains personnages moins connus du grand public qui ont retenu votre attention. Je pense entre autres à Joseph Fiévé. Pouvez-vous nous en dire deux mots ?
Alors, Fiévé est un personnage un peu oublié, qui fut un journaliste contre-révolutionnaire, puis ensuite rallié à Napoléon, après avoir eu des ennuis avec Fouché. Napoléon en fit un correspondant. Il y avait, au temps de Napoléon, des gens qui envoyaient des bulletins, des notes d'information, ça se fait encore aujourd'hui, à Napoléon pour l'informer de l'état d'esprit, de l'opinion, de donner leur avis sur les événements. Et ces bulletins de Fiévé ont été publiés plus tard. Et ils sont extrêmement révélateurs, même s'ils ont été certainement arrangés par l'auteur. Fiévé a ensuite été nommé au Conseil d'État par Napoléon, puis est devenu préfet de la Nièvre. La modernité, si je puis dire, de Fouché, c'est qu'il était homosexuel. Et que donc, il ne s'en cachait pas, à l'inverse de Cambacérès. Et il avait cette formule admirable, « Quand on a un vice, il faut savoir le porter ». Donc il arrive en 1813, dans la Nièvre, à Nevers, il rejoint sa préfecture, et il la rejoint avec son ami Théodore Leclerc, qui avait écrit des pièces de théâtre, enfin des proverbes, bien avant Musset. Et donc ils arrivent à la préfecture, et le premier grand dîner que donne Fiévé, il y a un bout de la table Fiévé, et à l'autre, Leclerc, qui tient la place de la maîtresse de maison, avec à sa droite le notaire, à sa gauche le receveur de l'enregistrement. Bref, tout se passe comme si le bon Leclerc avait été l'épouse de Fiévé. Et, de façon extraordinaire, les habitants de Nevers, les invités, ne réagissent pas. Soit ils ne comprennent pas, ce qui est le cas peut-être des habitants de Nevers, soit ils n'osent pas protester. S'ils n'ont pas compris, il est probable qu'ensuite, le lendemain, le notaire qui donne un dîner envoie la notairesse au fourneau et met son premier clerc à la place de la notairesse. Mais voyez, c'est le côté moderne de Fiévé. S'il n'avait fait que ça, ce serait limité, mais il faut lire sa correspondance politique avec Napoléon. Il faut lire ses différents ouvrages que j'ai recensés dans un petit livre qui s'appelait « Joseph Fiévé, conseiller secret de Napoléon », où on trouve des remarques d'une lucidité et sur la crise économique de 1810, d'une pénétration qui, encore aujourd'hui, reste d'actualité.
Marquons une courte pause et nous nous retrouvons dans quelques instants.
Jean Delumeau, Pierre-Sylvain Filioza, Paul Bernard, Jean Favier, Michel Zinc et Roland Recht, en entretien ou en séance, ces académiciens passionnés d'hellénisme, de médiévisme, d'archéologie, d'indianisme, de sinologie, d'orientalisme, d'égyptologie et d'histoire de l'art, partagent leur savoir. Retrouvez les membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres sur Canal Académie.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, nous sommes toujours en compagnie de Jean Tullard, venu nous présenter son dictionnaire amoureux de Napoléon, paru chez Plon. Tout à l'heure, j'insistais sur l'aspect personnel d'un dictionnaire amoureux, qui permet donc d'évoquer les choses qui vous ont marqué ou touché. Vous consacrez ainsi une entrée au comte Léon, premier fils de Napoléon, dont vous avez connu le dernier descendant.
Oui, alors vous le savez, ça a été la grande angoisse de Napoléon de savoir s'il était stérile ou non. Il était en droit de se poser cette question puisque Joséphine avait eu deux enfants et donc on savait qu'elle pouvait procréer. Mais c'était avant la terreur et il est probable que la terreur a accéléré la ménopause de Joséphine. Mais Napoléon ne le savait pas, avait un doute et c'est en fait une lectrice de Caroline Murat qui a découvert qu'il pouvait avoir un enfant. Cet enfant qui est né, qui lui ressemblait bébé, comme deux gouttes d'eau, du moins physiquement, hein, parce que moralement, non. Mais ce bébé, donc, s'est posé la question de savoir comment le prénommer. La lectrice de Caroline Murat voulait l'appeler, bien entendu, Napoléon. Et Napoléon a dit non, c'est un peu trop, coupons la Poiron 2, il s'est appelé Léon. Ça valait mieux que Napo, peut-être. Et donc, ce personnage, c'est le premier fils de Napoléon, et c'est quelqu'un, à un moment donné, Napoléon s'est interrogé pour savoir s'il n'allait pas en faire son héritier. Heureusement, entre nous, parce que la carrière du comte Léon, je ne sais pas pourquoi on lui avait donné cette titre de comte, la carrière du comte Léon a été catastrophique. Alors, il y a eu plusieurs comtes Léon, et j'ai connu le dernier qui, effectivement, ressemblait à Napoléon. Je ne comprends pas qu'aucun producteur de cinéma ne l'ait embauché pour interpréter le rôle, parce qu'il était beaucoup plus ressemblant, même que Pellegrin et Mondy, qui étaient pourtant admirables. Et donc, à chaque messe aux Invalides du 5 mai, il était relégué, alors c'était le seul qui vraiment était le descendant direct de Napoléon, il était relégué dans les bancs du fond. Je l'y retrouvais, et chaque fois, il se lamentait. Il avait fini, son ancêtre ayant croqué tout l'argent de Napoléon, par élever des poulets. Il écrivait des lettres, papier blanc, encre bleue, signature en rouge. J'en ai gardé quelques-unes. C'était un personnage très attachant. Malheureusement, il n'a eu qu'une fille, et donc la descendance s'est arrêtée là. Il n'y a plus de comte Léon.
Venons-en à la littérature. Vous abordez Alexandre Dumas dans le dictionnaire amoureux. Est-ce lui qui vous a d'ailleurs amené indirectement à Napoléon ?
Pas à Napoléon, parce que, bien entendu, il y a une série. C'est les compagnons de G.U.O. C'est sur la fin, les derniers du cycle de la Révolution, qui commence par Joseph Balsamo, Le Collier de la Reine, Ange Pitou, etc., s'achève sur un cycle Napoléon qui n'a pas été terminé. Et c'est l'un des meilleurs biographes de Napoléon, Claude Chopp, qui l'a terminé, et même on ne sait plus très bien ce qui est de Claude Dumas et d'Alexandre Chopp, tellement c'est imbriqué. Et donc, Alexandre Dumas m'a amené à Napoléon, tout exactement à l'histoire, à travers plutôt les Trois Mousquetaires, et donc j'aurais dû plutôt écrire Richelieu, mais ça avait été déjà épris. En revanche, Napoléon est le personnage historique, on ne le sait pas, le plus représenté dans les romans policiers historiques. Même Laurent Geoffrin, patron du Nouvel Obs ou de Libération, je ne sais plus, je m'y perds, je l'aime beaucoup, c'est peut-être une critique. Laurent Geoffrin a lui-même, alors que bon, c'est une personnalité de gauche, écrit un roman policier sur l'attentat de la rue Saint-Nicaise consacré à Napoléon. Et Yves Jégot, maire de Montreux, qui prévoit un parc d'attractions sur Napoléon, ce qui m'inquiète un peu, parce que Mickey et Astérix, je veux bien, mais Napoléon, ça m'embête un peu. Enfin, ça le regarde. Yves Jégot a écrit un roman policier sur l'époque napoléonienne qui s'appelle 1807, publicité gratuite. Donc, Napoléon est le personnage auquel vous ne pouvez pas échapper lorsque vous êtes amateur de romans policiers. Comme vous le savez, je l'ai dit ici, à Scanal Academy, j'ai écrit un dictionnaire du roman policier où il y a un article Napoléon.
Pour terminer, on va peut-être évoquer aussi la gastronomie. Il y a une entrée gastronomie dans ce dictionnaire amoureux de Napoléon. Ce qui est étonnant quand on connaît le peu de cas que Napoléon a accordé à la gastronomie.
Alors, Napoléon est un personnage qui mange très vite, 10 minutes. C'est cuisses de poulet, c'est ensuite fromage parmesan et des pâtes. Il aime beaucoup les nouilles. Et le tout arrosé de chambertin coupé d'eau glacée. Ce qui irrite les gens alors que, en fait, on coupait jadis son vin d'eau. C'était très courant. Je me souviens d'être dans un restaurant parisien avec une personnalité, un producteur éminent. Oh, je donne son nom, il n'y a rien d'infamant. Thierry Ardisson, qui voulait faire un film sur un gangster qui se prenait pour Napoléon. Et donc, ce gangster buvait du chambertin, il en avait les moyens, coupé d'eau. Et il me dit, Thierry Ardisson, qu'est-ce que ça donne du chambertin coupé d'eau? Je dis, écoutez, je n'ai jamais coupé mon chambertin d'eau. Ah, mais on va essayer. On appelle donc le sommelier, chambertin. C'est sous l'œil horrifié du sommelier, on le coupe d'eau plate, évidemment. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne le vin du rocher, velours de l'estomac. Je vous rappelle que ce vin coupé d'eau a donné un ulcère à l'estomac de Napoléon. Enfin, bon, c'est peut-être pas à cause du chambertin. Napoléon a laissé un plat qui est le poulet maringot, qui a été inventé par le chef Dunan sur le champ de bataille de Maringot, dont je donne la recette à ceux qui seraient intéressés, qui ne connaissent pas le poulet maringot. C'est un poulet cuit à l'huile, avec tomates, avec œufs frits et avec également des écrevisses. C'est un plat délicieux, mais enfin, qui n'est pas point de vue gastronomique immense. Pourquoi Napoléon est-il le père de la gastronomie? Parce que c'est l'époque où naît la gastronomie. Le mot vient d'un poème de Berchoux en 1802. C'est Grimaud de la Reynière qui invente la critique gastronomique dans son Almanach des gourmands, où il donne les bonnes adresses. Il dit les plats qu'il faut servir selon les saisons. Et c'est aussi Grimaud de la Reynière qui, avec ce jury gourmand, crée les académies gastronomiques, Club des 100, Académie des gastronomes, Académie des psychologues du goût. Je les connais toutes, en hommage à Napoléon.
Merci infiniment, Monsieur Tullard. Je renvoie nos auditeurs à votre dictionnaire amoureux de Napoléon, publié chez Plon. Au revoir à tous et à toutes.